Nous connaissons aujourd'hui une crise qui n'est pas seulement la crise de l'Église, mais qui est une crise du monde, car les hommes ayant perdu le sens de l'autorité et de la souveraineté de Dieu ne savent plus vers quelle autorité se tourner. Il semble que l'autorité de Dieu ayant été rejetée, toutes les autorités que Dieu avait voulu et avait établies dans le mariage, dans la famille, dans l'État, dans la vie professionnelle, scientifique ou artistique des hommes, toute autorité semble évanouie. Et les hommes n'ont plus de normes, n'ont plus de règles, n'ont plus de références. Et ils se trouvent comme livrés à l'anarchie même du péché. Et c'est pourquoi parler de l'autorité de Dieu, de l'autorité de la parole de Dieu, c'est vraiment cerner la question de la plus grande actualité. Le monde est véritablement perdu et court à son autodestruction s'il ne retrouve la véritable autorité. Et qui pourrait lui indiquer cette véritable autorité si ce n'est l'Église? Mais hélas, nous le savons, l'Église elle-même ne croit plus à l'autorité du Seigneur. L'Église elle-même se laisse aller aux idées, aux idoles, aux images, aux faux absolus du monde. Et l'Église ainsi ne rend plus aux hommes et ne rend plus à l'humanité le seul, le premier service qu'elle pourrait lui rendre, lui montrer où se trouve l'autorité véritable. Ainsi, le point de l'autorité du Christ, la parole incarnée de Dieu, et de l'Écriture, la parole inspirée de Dieu, n'est pas un point secondaire, périphérique, mais un point fondamental, central. Et cela, je le répète, non seulement pour l'Église et la théologie, mais pour le mariage, la famille, l'État, pour la philosophie et les diverses sciences, pour l'éthique et pour les arts, pour toute la pensée et pour toute la vie des hommes. Et notre imagination perverse d'hommes pécheurs est toujours d'écarter et de fuir l'autorité de la parole de Dieu, de prétendre que nous sommes libres d'une liberté, d'autonomie, afin de penser et de vivre comme il nous plaît. Et nous voyons bien les fruits de cette perversion dans les pensées et les mœurs d'aujourd'hui. À l'inverse, la vraie foi consiste en une humble et cordiale soumission à l'autorité de la parole de Dieu et en la découverte de la vraie liberté, qui n'est pas une liberté d'autonomie, c'est-à-dire où la loi, c'est celle qu'on se donne à soi-même, mais une liberté de théonomie, c'est-à-dire une liberté dans la reconnaissance de l'autorité de Dieu. Oui, depuis la chute, les hommes ruminent et rabâchent la vieille question du serpent. Dieu a-t-il réellement dit? Jusqu'à se persuader que Dieu n'a rien dit ou qu'il n'y a pas de Dieu. Et ils disent où est la parole de Dieu alors même qu'elle est tout près d'eux, pain de vie qu'ils ne veulent pas manger, lumière qu'ils ne veulent pas voir et vérité qu'ils ne veulent pas entendre. Oui, en tant que pécheurs, nous prétendons toujours à l'autonomie totale ou à une part plus ou moins grande d'autonomie. Et c'est de cette prétention insensée et pécheresse que procède, en opposition au clair témoignage du Christ et de l'Écriture, soit le rejet de l'autorité de la parole de Dieu, soit la minimisation ou la limitation sous des formes diverses et répétées de cette autorité. Les prophètes et les apôtres du Christ, l'Église des premiers siècles, les réformateurs au XVIe siècle, menant le combat de la foi à la gloire de Dieu, sous l'étreinte de l'Esprit et de la parole de Dieu, ont contrebattu autour d'eux et d'abord en eux toute prétention à l'autonomie. Ils ont proclamé la souveraineté en eux et appelé les hommes à s'y ranger dans la vraie liberté retrouvée. Eh bien, je crois de tout mon cœur, de toute ma force et de toute ma pensée que leur combat de foi et d'obéissance doit être le nôtre aujourd'hui, et que la crise présente de l'Église et du monde est l'expression d'un jugement de Dieu sur l'humanisme, je veux dire sur la religion de l'homme autonome, cette religion qui a pénétré et envahi une fois de plus et plus profondément qu'à d'autres périodes de l'histoire, la chrétienté elle-même. Le point de l'autorité de la parole de Dieu est donc un point essentiel. Entre l'autonomie et la théonomie, aucune synthèse n'est possible, car l'une est le renversement de l'autre. Dans le cœur de l'homme, comme dans tous les domaines de son existence, leur antithèse est radicale et totale. Où nous présupposons quelque autonomie totale ou partielle de l'homme, niant ainsi peu ou prou notre réalité de fait de créature, et qui plus est de créature déchue, où nous présupposons, comme il se doit, l'autorité de la parole du Seigneur, Créateur et Sauveur, reconnaissant ainsi qui nous sommes dans notre réalité de fait de créature responsable devant Dieu. Mon exposé comprendra deux parties. Une première partie, ayant pour titre l'Écriture comme traité d'alliance, et une seconde partie, que j'intitule « Trois pistes à ne pas suivre ». Donc, première partie, l'Écriture comme traité d'alliance. Pour cette première partie, j'ai utilisé les travaux concernant les découvertes archéologiques des dernières décennies, ainsi que l'ouvrage publié l'an dernier par le théologien réformé américain Meredith Klein sous le titre « The Structure of Biblical Authority », la structure de l'autorité biblique. L'Église, en tant que peuple pérégrinant dans l'histoire, n'a jamais été, dans l'ancienne comme dans la nouvelle dispensation de l'Alliance de grâce, sans une écriture sainte, sans une parole de Dieu écrite sous l'autorité de laquelle Dieu l'a placée. Dès l'assemblée inaugurale et constitutive du peuple allié de Dieu au Sinaï au temps de Moïse, l'Église, en hébreu de l'Ancien Testament « Kahal », dans le grec des Septante et du Nouveau Testament « Ecclesia », l'Assemblée de Dieu a reçu de Dieu un commencement d'Écriture sainte, le décalogue, dont les parties distinctes correspondent exactement à celles des traités écrits d'alliance entre un suzerain et son vassal en usage au Moyen-Orient dans le même second millénaire avant notre ère. Noyau initial du traité d'alliance entre le Seigneur et son Église, qui est l'ensemble pleinement développé de l'Écriture sainte, le décalogue comporte, comme les traités d'alliance de cette époque retrouvés depuis quelques années, un prologue rappelant d'abord l'identité du suzerain, « Je suis le Seigneur ton Dieu », et ensuite l'exploit historique qu'il a accompli en faveur de son vassal, qui t'ait fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude, puis l'énumération des obligations de gratitude et de confiance du vassal envers son suzerain, avec les promesses et les menaces qui lui seront appliquées selon sa fidélité ou ses infidélités aux stipulations du traité. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, et la suite des autres paroles. En affirmant solennellement d'une même voix, nous ferons tout ce que le Seigneur a dit, et en prenant un repas solennel dans la vision de Dieu, comme nous le rapporte le livre de l'Exode, le peuple entier fait le serment d'observer le traité écrit et les paroles de son suzerain, comme il était d'usage lors de l'établissement d'un traité d'alliance à cette époque. L'usage, lors de l'établissement d'un traité d'alliance, voulait aussi que le traité soit rédigé en deux exemplaires, dont l'un était déposé dans le sanctuaire du dieu du suzerain et l'autre dans le sanctuaire du dieu du vassal. De même, le décalogue a été écrit en deux exemplaires sur deux tables de pierre, les deux tables de l'Alliance, mais ici, comme le sanctuaire du suzerain, le Seigneur Dieu, et le sanctuaire du vassal, Israël, coïncidaient, les deux exemplaires furent déposés ensemble sur l'ordre de Dieu dans le même sanctuaire, dans l'arche de l'Alliance, au sein du tabernacle. Plus tard, c'est le livre du Deutéronome qui nous le rapporte, lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de la loi, ce livre de la loi, développement inspiré du décalogue qui en était le noyau, fut placé, comme le rapporte le Deutéronome, à côté de l'arche de l'Alliance du Seigneur, comme témoin contre Israël, est-il précisé. Ainsi le tabernacle, plus tard le temple, avec l'arche de l'Alliance et son contenu, le traité de l'Alliance, est-il érigé devant Israël et au milieu d'Israël, signifiant à la fois la volonté et les promesses de fidélité du Seigneur suzerain envers son peuple vassal et l'engagement de gratitude et d'obéissance du peuple vassal à l'égard de son Seigneur suzerain, signifiant aussi à la fois la miséricorde jusqu'en 1000 générations du Dieu fidèle à son alliance et l'exigence du Seigneur que son Église, son peuple, l'aime et garde ses commandements. De même que l'arc-en-ciel, selon la parole de Dieu à Noé, est le signe de l'alliance, de la grâce universelle, de patience et de bienveillance du Seigneur Créateur avec toute l'humanité, Genèse chapitre 9, de même l'arche et son contenu d'Écriture sainte est le signe de l'alliance de la grâce particulière et rédemptrice du Seigneur avec son peuple. Si le commencement d'une mise par écrit de la parole de Dieu en tant que traité d'alliance a inauguré et établi solennellement et juridiquement l'Église de Dieu dans l'histoire, parenthèse importante, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu auparavant, comme nous le savons de façon sûre par l'Écriture elle-même, des paroles de Dieu, dont certaines déjà écrites, ni des croyants pour les recevoir, les entendre, les garder et les suivre. Le développement ultérieur de l'Écriture s'est poursuivi jusqu'à l'âge apostolique, assurant et accompagnant la croissance et la marche du peuple de Dieu. Au fur et à mesure que la Bible s'est ainsi développée, s'imposant d'elle-même à chaque étape avec son autorité de parole de Dieu inspirée, le dessein rédempteur de Dieu, centré sur le Christ, à venir dans l'Ancien Testament, déjà venu et qui revient dans le Nouveau Testament, a progressivement été révélé. Aussi, depuis son achèvement à l'âge apostolique, chacune des parties, chacune des pages, chacune des phrases de l'Écriture est-elle inscrite dans un contexte intégral qui en éclaire et en précise le contenu de sens de plus en plus et de mieux en mieux pour l'ensemble de l'Église et pour chacun de ses membres sous l'illumination du même Saint-Esprit qui a porté, conduit et inspiré l'ensemble et chacun des divers rédacteurs humains de l'Écriture. C'est donc par une action continue de son autorité et de son inspiration, depuis le temps du décalogue donné au Sinaï jusqu'à l'achèvement du Nouveau Testament à l'âge apostolique, que le Seigneur suzerain a constitué souverainement pour son Église vassale le canon, c'est-à-dire la règle normative de l'Écriture sainte. Autrement dit, jamais l'Église, le peuple de Dieu, n'a été sans une Écriture sainte à laquelle se référer pour s'y soumettre. le caractère progressif de la formation divine de l'Écriture n'ôte rien à l'autorité qu'elle a eue dès le départ, au temps de Moïse, pour le peuple de Dieu. La coïncidence historique de l'origine de l'Écriture et de la constitution du peuple de Dieu, puis du développement de l'Écriture et de la progression du peuple de Dieu, et enfin de l'achèvement de l'Écriture et de l'entrée définitive du peuple de Dieu dans les derniers temps, à l'âge apostolique, démontre clairement que le Seigneur suzerain a voulu que son Église vassale lui soit alliée, unie et soumise en Jésus-Christ par l'autorité de sa parole écrite et inspirée. L'Église fidèle, sous l'ancienne comme sous la nouvelle dispensation de l'Alliance de grâce et d'emprise, a toujours reconnu et confessé cette autorité de l'Écriture qui la domine et à laquelle elle doit sans cesse revenir pour s'y ranger. C'est en particulier ce que les églises de la Réformation, Ecclesia Reformata et Semper Reformanda, l'Église réformée et toujours à réformer, ont reconnu et confessé avec force et vérité au XVIe et au XVIIe siècle. La confession de foi des églises réformées en France de 1559 affirme « Nous croyons que la parole qui est contenue dans ces livres a Dieu pour origine et qu'elle détient son autorité de Dieu et non des hommes. Cette parole est la règle de toute vérité et contient tout ce qui est nécessaire au service de Dieu et à notre salut. Il n'est donc pas permis aux hommes, ni même aux anges, d'y rien ajouter, retrancher ou changer. Il en découle que ni l'ancienneté, ni les coutumes, ni le grand nombre, ni la sagesse humaine, ni les jugements, ni les arrêts, ni les lois, ni les décrets, ni les conciles, ni les visions, ni les miracles ne peuvent être opposés à cette Écriture sainte, mais qu'au contraire, toutes choses doivent être examinées, réglées et réformées d'après elles. Je crois, mesdames et messieurs, qu'on ne peut pas mieux dire, et cette foi de l'Église est la mienne, et je pense qu'elle doit être la nôtre aujourd'hui. Dès son noyau, le décalogue, et progressivement ensuite tout au long de son élaboration sous l'action inspiratrice et formatrice de l'Esprit-Saint, l'Écriture s'est constituée avec sa pleine autorité de parole de Dieu comme traité de l'alliance du Seigneur avec son peuple, du Christ époux avec son Église épouse. Ainsi, toute la vie cultuelle et culturelle, toute la vie liturgique, c'est-à-dire toute la vie au service de Dieu, du peuple de Dieu, de l'Église de Dieu, leiturgia signifie service, a-t-elle été placée et demeure placée sous les stipulations, sous la règle du traité d'alliance qu'est l'Écriture. Et de même qu'un vassal n'avait aucune autorité pour ajouter ou retrancher aux paroles inscrites par son suzerain dans un traité, comme aussi pour les changer, et que seul le suzerain avait autorité pour développer, compléter, préciser et au besoin modifier sur tel ou tel point les termes et le contenu d'un traité, de même et a fortiori, seul le Seigneur Dieu, par sa souveraine autorité, a-t-il eu pouvoir d'élaborer en le complétant, en le précisant et au besoin en le modifiant sur tel ou tel point par son inspiration infaillible de ses divers et successifs auteurs humains, le traité d'alliance avec son peuple qu'est et demeurera l'Écriture. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Si la structure rédactionnelle de telle ou telle partie de l'Écriture, nous l'avons dit pour le Décalogue, il en est de même par exemple pour le Deutéronome, est exactement en forme de traité d'alliance, en tout point comparable à celle des traités d'alliance du second millénaire avant notre ère, ce qui rend anachronique et scientifiquement insoutenable à nos yeux les hypothèses classiques d'une certaine critique rationaliste sur l'époque de composition du Pentateuque, c'est l'Écriture tout entière qui est, sinon en forme, du moins en contenu de sens, traité d'alliance, si bien que toutes les parties et tous les genres littéraires de la Bible concourent à l'expression de l'alliance que Dieu a établie entre lui et son peuple. Cela est aussi vrai pour la riche diversité de lois que contient l'Ancien Testament et par lesquelles le Seigneur veut régir tous les domaines de l'existence de son peuple, que pour les récits historiques qui nous rapportent ce que Dieu a fait pour lui dans le cadre de l'univers qu'il a créé et de l'histoire universelle qu'il conduit, et comment Dieu réagit par sa grâce ou par son jugement à la fidélité et aux infidélités de son Église par rapport aux stipulations de l'Alliance. Au reste, dans les livres de Josué, de Samuel, des Rois, des Chroniques, d'Esdras et de Néhémie, les récits de renouvellement de l'Alliance constituent les nœuds de la narration historique. Cela est aussi vrai pour les livres prophétiques. La mission, la charge des prophètes, étant d'être des ambassadeurs de Dieu auprès du peuple vassal pour le rappeler aux promesses et aux exigences de l'Alliance. Que pour les livres poétiques, les psaumes inspirés ont été donnés par le Seigneur à son peuple pour qu'il exprime la louange du Dieu fidèle à son Alliance, comme aussi la peine et le regret de l'avoir offensé en violant son Alliance. Les livres sapientiaux rappellent que la sagesse est de craindre le Seigneur de l'Alliance et disent comment, très pratiquement, la parole de l'Alliance doit être observée. Cela est vrai enfin des livres du Nouveau Testament dont les auteurs se reconnaissent, je cite saint Paul, serviteurs de la Nouvelle Alliance, et attestent que Jésus est le Messie Seigneur de l'Alliance dont il est à toujours l'unique médiateur par le sang d'une alliance éternelle et sa résurrection. Les noms mêmes d'Ancien et de Nouveau Testament, d'Ancienne et de Nouvelle Alliance, soulignent que la Sainte Écriture, en son entier, est bien le traité de l'alliance de grâce auquel l'Église est liée et soumise à la gloire du Seigneur et pour son salut, jusqu'à ce que vienne enfin celui dont elle attend et hâte le retour triomphal. Il convient de remarquer, en terminant la première partie de cet exposé, que si l'Ancien et le Nouveau Testament sont inséparables et forment ensemble l'unique traité de l'Alliance, la distinction de l'Ancien et du Nouveau Testament, de l'Ancienne et de la Nouvelle Dispensation de l'unique Alliance, doit être soigneusement observée. Certes, toute l'Écriture est parole de Dieu, et dans sa foi et pour sa foi, l'Église de la Nouvelle Dispensation est régie aussi bien par l'Ancien que par le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, parole de Dieu, est véridique et sûr en tout ce qu'il rapporte, et l'Église de la Nouvelle Dispensation doit recevoir comme vérité tout ce que l'Ancien Testament révèle et dit de Dieu, de son œuvre de création et de gouvernement de l'histoire, de la chute de l'homme, de la grâce universelle de patience et de bienveillance de Dieu envers l'humanité, grâce qui borne les effets intensifs du péché et promeut le développement du genre humain, de la grâce particulière et rédemptrice manifestée envers Abraham et sa descendance et suscitant pour l'accompagner l'histoire sainte d'Israël. Mais, dans sa vie et pour sa vie, l'Église de la Nouvelle Dispensation est régie normativement par le Nouveau Testament et n'est encore régie sur tels points importants par l'Ancien Testament que pour autant que le Nouveau Testament le présuppose et le confirme. Et cela parce que le Seigneur suzerain, en faisant passer son peuple vassal de l'Ancienne à la Nouvelle Dispensation, a modifié, comme seul il en a le droit et selon sa volonté, par soustraction ou addition ou transformation, les règles de vie cultuelles et culturelles de son Église. Déjà d'ailleurs, au cours de l'histoire d'Israël, sous l'Ancienne Dispensation, Dieu avait modifié des règles établies pour la vie au désert, en ordonnant d'autres pour la vie en Terre Sainte. Et des règles nouvelles avaient été données aussi par Dieu lors de l'établissement de la monarchie théocratique. Après une phase de transition au temps de Jean-Baptiste et durant la vie de Jésus et son temps d'humiliation jusqu'à la croix, phase durant laquelle certains ordres provisoires avaient été donnés en vue de la rapide évangélisation d'Israël pour une dernière sommation prophétique de retour du peuple de Dieu à la vivante réalité de l'Alliance, la modification des règles de vie du peuple de Dieu fut autrement considérable. La glorification du Messie d'Israël, notre Seigneur Jésus-Christ, la descente de l'Esprit-Saint sur les disciples au jour de la Pentecôte, l'extension du peuple de Dieu d'Israël aux nations, L'abolition des sacrifices cultuels du Temple de Jérusalem, sacrifice qui préfigurait et annonçait le sacrifice unique et parfait de la croix. L'enseignement nouveau de Jésus et des apôtres qu'il avait choisi inaugurèrent une ère nouvelle de vie et de mission pour l'Église, le peuple de Dieu, Église entrée désormais dans les derniers temps de l'histoire. Le traité d'alliance qu'est l'Écriture se conclut ainsi dans le Nouveau Testament par des dispositions nouvelles auxquelles, pour sa vie et par sa vie, le peuple de Dieu de la nouvelle dispensation est désormais soumis jusqu'à la fin. J'espère, mesdames et messieurs, que cette distinction que je viens de faire entre règles de toute l'Écriture pour la foi de l'Église et règles normatives du seul Nouveau Testament pour la vie de l'Église est une distinction que vous n'interpréterez pas en mauvaise part, mais je la crois importante, car très souvent, les protestants, par souci d'obéissance à la parole de Dieu, ont mis en ce qui concernait, non pas la foi, mais la vie, l'Ancien Testament, beaucoup trop sur le même pied que le Nouveau Testament, et je crois que certaines erreurs historiques des protestants ont été causées par l'oubli de la distinction des modifications apportées par Jésus lui-même et ses apôtres au traité d'alliance en ce qui concerne la vie du peuple de Dieu. Deuxième partie, trois fausses pistes à ne pas suivre. Dans ce temps de crise de l'Église et du monde que j'ai évoqué tout au début de cet exposé, une reformation nouvelle, vraie et profonde, de l'Église d'abord, et du monde ensuite dans la mesure où Dieu le voudrait, n'est possible que dans la reconnaissance de l'autorité divine de l'Écriture. Je le redis encore, toute minimisation, toute limitation, et à plus forte raison bien sûr, tout rejet de cette autorité bloque l'indispensable reformation à entreprendre. Trois fausses pistes nous sont proposées. La première, par ceux qui définissent l'Écriture comme un simple témoignage humain de la parole de Dieu. La seconde, par ceux qui prônent une certaine herméneutique prétendument scientifique de l'Écriture. La troisième, par ceux qui préconisent une lecture sécularisée ou profane de la Bible. Considérons successivement ces trois fausses pistes. Et d'abord celle que proposent ceux qui définissent l'Écriture comme un simple témoignage humain de la parole de Dieu. Depuis plusieurs décennies, l'expression « témoignage de l'Écriture » est devenue un lieu commun, presque un cliché, dans un cercle de plus en plus étendu de la chrétienté. Dans cette perspective, l'autorité de la parole de Dieu serait bien reconnue comme divine et infaillible, mais ceci idéalement en quelque sorte. Car en même temps, l'autorité de l'Écriture, distinguée de celle de la parole de Dieu, est singulièrement minimisée. L'Écriture, nous est-il dit, n'est plus directement parole de Dieu, mais seulement ensemble de témoignages humains, faillibles, parfois erronés et contradictoires de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne nous parviendrait plus qu'indirectement, à travers les témoignages de l'Écriture, en un certain nombre de cas malgré eux, et même à l'occasion contre eux. Tout témoignage humain, même scripturaire, étant sujet à caution, c'est-à-dire douteux, suspect, ou du moins susceptible d'être suspecté, tout témoignage humain, même scripturaire, étant une expression, une traduction, une interprétation subjective, plus ou moins approchante ou plus ou moins déformante de la parole révélée, nous pourrions l'estimer, le peser, pour plus ou moins le recevoir ou l'exclure. La forme du témoignage étant toujours, nous dit-on, plus ou moins trahison, la critique humaine, le jugement humain, a finalement barre sur le texte de l'Écriture, au nom de la conscience, ou au nom des sentiments, ou au nom de la raison, ou au nom de la science, ou au nom de l'expérience des hommes, et même, pourquoi pas, au nom de la parole de Dieu définie alors par une théologie humaine. Or, l'emploi indéniable et fréquent des substantifs témoin, témoignage et du verbe témoigner dans l'Écriture et quand il s'agit des paroles qu'elle contient et qui la constituent, au lieu d'aller dans ce sens dubitatif et relatif qu'on préconise, va toujours au contraire dans le sens affirmatif et absolu. Si l'Écriture, comme le disaient nos pères, est sui ipsius interpres, c'est-à-dire son propre interprète, et si le meilleur dictionnaire de la Bible, c'est la Bible elle-même, nous devons écouter et recevoir son témoignage sur le sens à donner ici au mot témoignage, et la laisser parler elle-même. Certes, selon l'Écriture, les auteurs prophétiques et les auteurs apostoliques du traité d'Alliance sont des témoins humains, mais des témoins humains particuliers, en ce sens qu'ils ont été choisis à l'avance par Dieu, Actes 10, 41, inspirés par Dieu, 2 Timothée 3, 16, guidés par l'Esprit Saint, 2 Pierre 1, 21, pour nous révéler la vérité de Dieu de telle sorte que c'est Dieu lui-même qui nous parle directement par ses témoins, par le texte de l'Écriture. Quand Jésus fait appel au témoignage de l'Écriture, n'avez-vous pas lu, ou bien il est écrit, et quand Jésus dit que l'Écriture rend témoignage de lui, c'est pour affirmer pleinement et sans aucune restriction la vérité de ce qui est écrit, la vérité textuelle qui ne doit pas être mise en doute, si peu que ce soit. Relisez des passages comme Matthieu 5, 17 et suivant, ou Jean 5, 39, ou Jean 15, 26 et 27, et vous verrez que pour Jésus, il en est bien ainsi. Les prophètes témoins de l'Ancien Testament et les apôtres témoins du Nouveau Testament sont porte-parole de Dieu, et leurs témoignages auriculaires ou oculaires consignés dans l'Écriture sont authentiques, véridiques, indubitables, Jean 19, 35, et forment ensemble le témoignage sûr et certain que l'Esprit Saint, inspirateur souverain de l'Écriture, rend à la vérité. 1 Pierre 1, 10-12, 2 Pierre 1, 16-21. Quand Jésus dit aux apôtres qu'il avait choisi, « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Et encore, « Qui vous écoute, m'écoute. » Il établit la véracité, et non pas, si je puis dire, la dubitativité des témoignages apostoliques. Et les substantifs témoin, témoignage et le verbe témoigner dans l'Écriture, et quand il s'agit des prophètes et des apôtres, choisis et inspirés par le Seigneur, ne caractérisent pas l'aspect exclusivement humain, mais au contraire l'aspect premièrement divin et seulement secondairement humain des saintes Écritures. Dieu nous donne sa parole divine avec pleine autorité, par le texte même qu'il a inspiré aux auteurs humains divers et successifs de l'Écriture. La véracité du Christ est garantie par l'accomplissement de l'Écriture, comme la véracité de l'Écriture est garantie par l'autorité du Christ. La parole écrite de Dieu nous révèle la parole incarnée de Dieu, comme la parole incarnée de Dieu nous éclaire par son esprit la parole écrite de Dieu. Elles se rendent mutuellement témoignage, et leur témoignage est vrai parce que c'est le témoignage que Dieu se rend à lui-même. Nous devons donc rejeter comme une fausse piste qui a parfois introduit, hélas, aux deux autres, celle que nous proposent les théologiens de l'Écriture, définie comme un ensemble de témoignages humains et faillibles. Venons-en maintenant à la seconde fausse piste, celle que proposent les tenants d'une herméneutique prétendument scientifique de la Bible. Nous avons affaire là non pas à une science servante, prête à se soumettre humblement à la vérité, mais à une science maîtresse, se croyant capable de définir à son gré la vérité. L'autorité divine de l'Écriture étant a priori rejetée, les auteurs humains de l'Écriture étant a priori déclarés faillibles, au schéma historique présenté par l'Ancien Testament, l'herméneutique prétendument scientifique substitue hardiment depuis plus d'un siècle, un schéma historique de son invention, basé sur l'idée d'évolution et enseigné couramment, aujourd'hui encore, dans la plupart des universités et des facultés de théologie. L'ordre vétérotestamentaire, Abraham, Moïse et la loi, les prophètes, a été rejeté comme impossible. Abraham et Moïse ont été plongés dans les brouillards d'une préhistoire inconnaissable. Les prophètes, à leur place, sont devenus les initiateurs et la loi, le Pentateuque, postérieure aux prophètes, pour l'essentiel, n'est plus que la cristallisation plus ou moins formaliste, ritualiste et légaliste de leurs enseignements. Dans cette perspective, déjà bien vieille, quoique toujours présentée comme nouvelle, rien ou presque n'a pu se passer comme le raconte la Bible. La construction historique présentée par l'Ancien Testament, renversée et mise en pièces, est remplacée par la reconstruction, à partir d'un certain nombre de ces pièces, d'un nouvel édifice ou de nouveaux édifices garantis scientifiques. Ensuite de quoi, l'interprétation des textes bibliques, retirée de leur contexte historique biblique et placée dans un nouveau contexte historique scientifique, pourra se conformer à l'idée ayant présidé à la reconstruction. La Bible n'est plus reçue et comprise telle qu'elle est, mais reçue et comprise telle que la science l'a refait. Au départ, au XIXe siècle, l'ignorance dans laquelle on était encore de l'histoire des peuples et des civilisations du Moyen-Orient, et en particulier de leurs écrits, de leurs traités, de leurs lois, semblait permettre le libre cours de toutes sortes d'hypothèses. L'herméneutique, plus ou moins, et plutôt plus que moins rationaliste, ne se priva pas d'en faire. L'histoire, telle que l'Ancien Testament la présente, était déclarée légendaire, mythique, fourmillante de contradictions, irrecevable, et les lignes de défense d'une apologétique elle-même rationaliste se retrécissaient de plus en plus. Certes, l'Église fidèle maintenait intrépidement la véracité de l'Écriture sainte, mais elle était alors accusée d'obscurantisme par trop de savants sûrs de leur science et contempteurs de la foi. Dans le domaine scientifique, mesdames et messieurs, ce qui doit être finalement déterminant, ce n'est pas l'idée, ce ne sont pas les hypothèses. Ce sont les faits. Eux seuls conduisent à la certitude, eux seuls permettent de vérifier ou d'infirmer telle hypothèse. Or, depuis déjà la fin du XIXe siècle, et surtout depuis une cinquantaine d'années, le monde du Moyen-Orient et son histoire, monde et histoire dans lesquels se situe l'Ancien Testament, nous sont de mieux en mieux connus. Trop souvent confinés dans leur spécialité et dans un isolement par rapport à d'autres disciplines qui leur a permis d'échafauder de façon idéaliste leurs hypothèses, beaucoup d'exégètes de l'école critique classique sont déjà et vont être de plus en plus confrontés, non plus avec des affirmations de foi seulement, affirmations de foi dont ils n'avaient cure, mais avec de solides découvertes archéologiques et épigraphiques dont il va bien tôt ou tard leur falloir tenir compte. Par exemple, comme l'a montré récemment Kitchen, professeur à l'école d'archéologie et d'études orientales de l'université de Liverpool, nous avons maintenant des documents du 19e au 15e siècle avant Jésus-Christ confirmant ce que la Genèse nous dit des mœurs au temps des patriarches. Nous connaissons maintenant du second millénaire avant notre ère, je l'ai dit tout à l'heure, des traités d'alliance exactement de même forme que le Décalogue ou le Deutéronome. Nous savons maintenant par des textes retrouvés qu'une personnification de réalités abstraites comme celle de la sagesse au chapitre 8 et 9 du livre des Proverbes était courante bien avant le temps de Salomon. Comme l'a montré récemment encore Kühling, professeur à l'Institut de théologie évangélique de Bâle, les prétendus documents P de la Genèse tenu par l'école critique classique comme étant de date récente, post-exilique, se révèle à l'examen, ensuite des découvertes archéologiques, comme étant parmi les pages, non pas les plus récentes, mais au contraire les plus anciennes de la Genèse. Comme l'a montré plus récemment encore Donald Wiseman, professeur d'assyriologie à l'Université de Londres, les découvertes sur le texte, l'environnement littéraire et la situation historique de l'Ancien Testament rendent scientifiquement intenable la plupart des hypothèses primitivement faites dans un certain vide de connaissances sur l'ancien Moyen-Orient de l'école critique classique. Entre autres, la découverte des manuscrits de Qumran, 1945-1956, confirme le texte et le canon reçu de la loi et des prophètes. L'évidence s'est accrue qu'au second millénaire avant Jésus-Christ, la tradition orale était accompagnée et contrôlée par des textes écrits parallèles. L'historiographie a existé au Moyen-Orient dès l'âge du bronze, 1800-1550 avant notre ère. La littérature sapientiale était en usage dès le temps ancien des civilisations sumériennes et acadiennes. Les textes ugaritiques démontrent le caractère archaïque des chants de Myriam et de Déborah, de la bénédiction de Moïse et des dires de Balaam. La comparaison de très anciens documents avec les récits bibliques patriarcaux oblige à dater ceux-ci de temps autrement archaïques que ne le fait encore l'école critique classique. Bref, toutes les sources extra-bibliques d'informations dont nous disposons désormais confirment de plus en plus en fait le texte biblique que cette école contestait par des hypothèses purement idéelles que rien, absolument rien, n'est venu appuyer. Comme vient de l'écrire Kitchell à l'automne 1972, « Pour être pleinement compris de manière critique, sera critique une étude prenant en considération l'ensemble des données. L'Ancien Testament ne doit pas être arraché de son contexte. Il ne faut pas apprécier seulement le rôle, le message central et spirituel de première importance de l'Ancien Testament, mais au-delà, entrer dans l'étude de l'histoire, de l'usage et des formes littéraires, des lois et des traités, des structures sociales, des institutions et phénomènes religieux, de l'arrière-plan concret du Moyen-Orient ancien, si l'on veut éviter de courir au désastre, comme l'a fait une étude en isolement de l'Ancien Testament. La connaissance de l'ancien Moyen-Orient est indispensable. Dans ce contexte, les phénomènes externes de l'Ancien Testament peuvent être appréciés à leur valeur et les théories élaborées sur ses origines et leur reconstruction aventurée perdent tout sens. » C'est un jeune professeur d'études orientales de l'Université de Liverpool, âgé de 40 ans, qui écrit cela. Puisse-t-il être écouté par les professeurs d'Ancien Testament qui s'obstinent à maintenir des hypothèses qui ne peuvent qu'être controuvées au plan scientifique. En ce qui concerne le Nouveau Testament, et comme l'a montré l'exégète réformé hollandais contemporain Rieder-Bos, l'autorité de Dieu n'est en aucune façon limitée à ses puissantes œuvres en Jésus-Christ, mais s'étend aussi à leur proclamation dans les paroles et les écrits de ceux qui ont été désignés comme les porteurs autorisés et les instruments de la révélation divine. Aussi, la tradition écrite établie par les apôtres, en analogie avec les écrits de l'Ancien Testament, a-t-elle acquis la signification d'être le fondement et la règle de l'Église. Le Nouveau Testament a l'autorité divine, à la fois dans son kérugma, sa proclamation, dans sa martyria, son témoignage, et dans sa didaké, son enseignement. L'autorité du cercle apostolique, désormais inscrite dans le texte néo-testamentaire, est au témoignage répété du Nouveau Testament l'autorité du Seigneur lui-même. Le « qui vous écoute, m'écoute, qui vous rejette, me rejette, et qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé », dit par Jésus à ses apôtres. Sa promesse aux apôtres, quand sera venu le Paraclet, le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement, assure l'autorité divine du Nouveau Testament. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, dit encore Jésus à ses apôtres, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Jean 16, 13. Et Jésus leur dit encore, le Paraclet, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. Quand on fait de l'Église primitive, de la communauté primitive, la créatrice, l'inventrice ou la correctrice du message néo-testamentaire, comme le fait une certaine école herméneutique à partir de certains motifs de base qu'elle se donne pour s'y soumettre, non seulement on ne procède pas comme on le prétend d'une manière scientifique objective, mais on va contre l'affirmation constante des auteurs du Nouveau Testament qui ne cessent de placer et de replacer l'Église sous l'autorité seigneuriale de celui dont ils ne veulent être que les humbles porte-parole. Il est significatif et dans la ligne non seulement de l'Apocalypse dont c'est tiré, mais de tous les écrits néo-testamentaires, que le Nouveau Testament s'achève ainsi. « Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera les plaies décrites dans ce livre, et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la cité sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. Amen, viens, Seigneur Jésus. La grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. » Venons-en enfin à la troisième fausse piste, celle que préconisent les tenants d'une lecture sécularisée ou profane de la Bible. Cela nous invite carrément à dépouiller l'Écriture de son caractère de sainte Écriture pour mieux saisir la bonne nouvelle de la libération de l'homme par Jésus de Nazareth. Ils ont retenu à fond la leçon d'Emmanuel Kant, à savoir qu'il est impossible à l'homme de rien connaître d'un Dieu transcendant au-dessus de l'univers. Ceux qui suivent les deux pistes précédentes gardent encore un certain sens de Dieu et reconnaissent encore une certaine autorité de l'Écriture. Mais ceux qui suivent cette troisième piste tendent à la négation de Dieu et à la négation d'une quelconque autorité objective de l'Écriture. L'homme devenu adulte et pleinement autonome, on y est enfin arrivé, n'a que faire de Dieu et d'une parole divine. Sa liberté d'homme, telle que Jésus de Nazareth l'aurait progressivement comprise et vécue jusqu'à son terrifiant « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» consiste à se libérer du déterminisme inhumain des lois de la nature et de la servitude des prétendues lois éthico-spirituelles de Dieu qui ne sont que des tabous à nier pour connaître enfin une existence digne du nom d'homme. Il ne s'agit plus seulement de démythologiser l'Écriture à la manière de Bultmann, qui n'aurait osé faire qu'un bout de chemin dans la bonne direction, mais de dédiviniser l'Écriture en vue d'exalter la pleine libération de l'homme et de prendre part à tous les mouvements révolutionnaires qui visent et travaillent à cette libération. En retenant telle page de l'Écriture, le récit d'Israël sortant d'Égypte, par exemple, ou encore les invectives de Jésus contre les pharisiens, en les isolant de leur contexte, en les dédivinisant et en en tordant le sens, les tenants conséquents de la lecture sécularisée et profane de la Bible proposent aux chrétiens d'aujourd'hui de se décharger hardiment de leur héritage archaïque d'images infantiles et d'assumer non moins hardiment leur tâche d'adulte débarrassé du Père. L'humble cantique de Marie, au début de l'évangile de Luc, devient alors un succès d'années des hymnes révolutionnaires dont on retient qu'il faut renverser les puissants de leur trône et renvoyer à vide les riches. Au nom d'un amour de l'humanité, aussi vaste qu'indéfini, les règles éthiques de l'Écriture sont balayées comme légalisme, pharisaïsme, hypocrisie et l'homme nouveau, adulte, dont Jésus de Nazareth serait l'image exemplaire, initiale et finale, se dresse enfin, libéré et libre, sur les ruines des sombres constructions du passé est capable désormais de bâtir un monde nouveau. S'il est bien évident qu'une telle perspective n'a plus rien à voir avec le contenu de sens de l'Écriture, sans qu'il soit besoin de le démontrer, il est non moins évident, hélas, qu'elle exerce une véritable fascination sur plusieurs, tant elle va dans le sens de l'idéologie, on peut dire de l'idéologie révolutionnaire contemporaine. En réalité, sous le prétexte déclaré de traduire l'Évangile en un langage que l'homme d'aujourd'hui puisse comprendre, les tenants de la lecture sécularisée de la Bible nous apportent un autre Évangile, celui de l'homme avec un grand H à la place de l'Évangile de Dieu. Leur rejet de l'autorité divine de l'Écriture est masqué pour beaucoup, non seulement par l'emploi qu'ils font encore de l'Écriture, on se demande pourquoi, mais par leur utilisation abusive des termes de l'Écriture, foi, liberté, résurrection, etc. C'est ainsi que la résurrection, dans leur langage, ne désigne plus ni la sortie victorieuse de Jésus hors du tombeau, ni la nouvelle naissance du chrétien par la puissance du Saint-Esprit pour qu'il vive en union avec le Christ ressuscité, ni la résurrection des corps au dernier jour, mais l'accession de l'homme adulte et autonome à la liberté révolutionnaire. De même, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de l'homme ainsi libre qui lutte pour la libération des autres hommes. De même, être en Christ, c'est être saisi par la contagion de la liberté révolutionnaire de Jésus de Nazareth. De même encore, la nouvelle Jérusalem, c'est la cité séculière que doit et va établir la Révolution. Cet emploi à contresens du langage biblique tente à la fois à hypnotiser et à endormir les lecteurs et les auditeurs quant au message de l'Écriture et à les éveiller, sans qu'ils s'en doutent, à une pensée révolutionnaire qu'ils prendront naïvement pour l'Évangile. Nos nouveaux théologiens parlent du mythe de Dieu et du Messie divin. En fait, c'est leur Jésus, projection de leur idée de l'homme révolutionnaire, qui est un mythe. Ce prétendu sauveur, ce Jésus sans visage, n'a plus rien à voir avec le Jésus Messie de l'Écriture. Le vrai Jésus, celui des Évangiles et du Nouveau Testament, celui de l'histoire vraie, ne s'est pas fait connaître en suivant des mythes habilement conçus, dit Pierre, mais par ceux qui ont vu sa majesté de leurs propres yeux et qui nous le décrivent dans l'Écriture. Au lieu de recevoir ce que le Christ dit de lui-même dans le texte qu'a inspiré son esprit, les tenants de la pensée sécularisée rejettent l'autorité divine et le contenu de sens de ce texte, tout en le gardant pour l'interpréter à l'opposé de ce qu'il affirme et en reprenant les termes après les avoir vidés de leur sens et les avoir remplis du sens de leur propre pensée. Mesdames et messieurs, je conclus. Je conclus en disant que l'Église fidèle, confessante, ne peut qu'opposer un non résolu à ceux qui l'invitent à suivre un peu ou beaucoup, peu importe, les trois fausses pistes dont je viens de parler. L'Église fidèle, confessante, affirme comme un fait reçu de Dieu et révélé par lui l'autorité divine de l'Écriture due au miracle de son inspiration par l'Esprit Saint. Certes, ce fait de l'autorité divine de l'Écriture, ensuite et à cause de notre aveuglement d'homme, ne peut être reconnu et confessé par nous que si nous sommes guéris de notre aveuglement et illuminés par le même Esprit Saint qui l'a inspiré. L'autorité divine de l'Écriture ne peut être reconnue et confessée que par la foi, mais elle doit être reconnue et confessée par la foi. Par la divine autorité de l'Écriture, Dieu se révèle à nous, nous révèle son plan de salut par grâce en Jésus-Christ, nous révèle sa volonté que nous devons commencer à faire de tout cœur et en tous les domaines de l'existence. Si toute l'Écriture est inspirée, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour éduquer dans la justice, c'est écrit Paul à Timothée, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. La Bible n'est certes pas un livre magique, dont nous puissions piquer les paroles au hasard ou selon nos caprices, les entendant alors non plus dans leur sens vrai, mais comme des formules bénéfiques ou maléfiques. La situation concrète de chaque texte particulier, dans son contexte immédiat et dans le contexte total de l'Écriture, permet seule de recevoir et d'entendre le sens précis de ce qu'il veut dire dans le rayonnement central du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si le sens de l'Écriture est suffisamment clair dans l'ensemble et quant à l'essentiel pour ôter toute excuse à celui qui ne veut pas l'entendre, et si cette clarté étend progressivement sa lumière au long de l'histoire de l'Église sur des passages d'abord obscurs, il reste cependant des difficultés, d'apparentes contradictions, des passages étranges que nous ne devons ni écarter ni expliquer par une gymnastique intellectuelle hâtive ou malhonnête. C'est en mendiant sans cesse l'Esprit Saint dans la prière, en se soumettant à ce que l'Écriture dit clairement et en persévérant dans la lecture, la méditation, l'étude et la prédication de l'Écriture, que l'Église, pas à pas éclairée et conduite, a compris, comprend et comprendra de mieux en mieux tout ce que Dieu révèle en sa parole, se reprenant quand il faut se reprendre, se reformant quand il faut se reformer, se préparant comme l'épouse qui se pare pour son époux, auquel seule soit la gloire dans les siècles des siècles.